Le dehors, l'impossible et moi, un calendrier intellectuel.
Alors, Nicolas Lévesque m'a invité pour une deuxième fois à participer à son émission, probablement parce qu'inconsciemment, quand j'ai fait toutes mes invitations pour tous les mois, j'ai peut-être fait exprès, je crois, pour qu'il y en ait un jour ou à quelque part qui soit négligé, abandonné, qui reste sans voix. Sans personne à charge, et que cette situation me force à intervenir, à le prendre en charge, à le prendre sous mon aile, à ce que ça devienne mon moi. Et peut-être en fantasme, je voulais avoir le rôle du gardien substitut, auxiliaire, prêt à rentrer dans le jeu lorsque le gardien se blesse. Peut-être était-ce une identification à Carey Price. C'est peut-être cela. Mais je crois aussi que, au-delà du fait que j'ai peut-être pas assez bien fait mes devoirs pour trouver quelqu'un pour le mois de décembre, ou peut-être tout simplement par une sorte d'épuisement généralisé, j'avais, je crois, envie à quelque part en moi de parler. D'utiliser peut-être mon nouveau micro, parce que la première fois que j'avais fait l'émission, c'était dans une espèce de vieux micro à 12 $ que j'avais branché directement dans mon ordinateur et ça donnait un son, ma foi, fort douteux. Et avec ce nouveau micro, qui a une option qui s'appelle Phantom Power, qui est un mot en anglais évidemment, mais qui a une signification qui est quand même excitante, je trouve, parce que ça représente bien tout le projet de Radio Spirale, le pouvoir fantôme, si on peut parler comme ça, et peut-être le projet des intellectuels et des artistes, des écrivains en général, c'est-à-dire le pouvoir des fantômes, le pouvoir de la culture, le pouvoir des mots aussi, des langages en général, dans une sorte de mi-présence, mi-absence, qui est à la fois invisible, c'est-à-dire que c'est peut-être le problème des intellectuels et des artistes en général, c'est-à-dire d'être dans une sorte d'ombre, toujours dans l'ombre du courant principal. Et aujourd'hui, on semble d'ailleurs en souffrir beaucoup dans une société de l'image. On dirait que les intellectuels se plaignent constamment de ne pas être des vedettes, de ne pas passer à tout le monde en parle, de ne pas avoir des articles sur eux un peu partout, de ne pas avoir des affiches publicitaires de leur dernier livre sur l'autoroute métropolitaine. Et donc, d'une certaine façon, c'est comme si on oubliait aussi que même s'il faut pas en faire une sorte d'apologie de l'invisibilité, il reste qu'il y aura toujours, je pense, une sorte de pouvoir de l'ombre du côté de la marge et qu'il faut aussi l'assumer. Et pourtant, les fantômes, c'est pas parce qu'on les voit pas qu'ils n'ont pas d'effet. Et je pense qu'il faut se consoler et s'encourager en pensant que ce n'est pas nécessairement en étant vu qu'on a du pouvoir et que ce n'est pas nécessairement non plus en étant connu qu'on en a et qu'il y a une sorte de travail par en dessous des intellectuels qui labourent, si on veut, le terreau de la culture, le terreau de l'inconscient collectif, de toute une mémoire et de tout un héritage qui a des effets. Et évidemment, c'est le narcissisme qui en prend pour son rhume, parce qu'on n'est pas toujours, et la plupart du temps, au fond, personne ne saura qu'est-ce qui est la contribution de qui. Et je pense que ça prend une certaine humilité, particulièrement à notre époque, pour continuer à œuvrer dans cette ombre, alors que l'ombre est peut-être la chose la plus dévalorisée présentement. Il faut donc se réconcilier peut-être avec l'image du fantôme bienveillant que nous sommes. Évidemment, ce « nous » est très ouvert. Donc, décembre, je n'ai pas nécessairement envie d'en faire une sorte de compte-rendu de ce qui s'est passé dans ce mois-là. J'ai quand même fait ce que j'avais à faire, c'est-à-dire j'ai pris des notes pendant le mois, je me suis laissé inspirer. Je pense que je préfère parler de l'émission. J'avais envie de faire une sorte de retour sur le work in progress, si on veut, qui est cette émission, le dehors, l'impossible et moi. Ce calendrier intellectuel qui a pris du galon et depuis un certain temps a pris de la maturité, je pense, et est devenu quelque chose, a une sorte de personnalité, une sorte de présence qui, me semble, mérite d'être commentée, d'être comprise, d'être réfléchie. Et ça, j'avais envie de réfléchir à partir de ce qui se passe dans cette émission-là et aussi peut-être autour du projet peut-être plus général, dans le fond, de Radio Spirale. Tout ça est évidemment intimement relié. D'autant plus que pendant le mois de décembre, ce qui m'est apparu, ce qui est marqué en gros sur mes notes, en plus gros, c'est le retour d'Asie de Ron Fournier. Donc, ce qui est quand même pas un événement là, qui mérite beaucoup de commentaires de toute façon. Pour ce qui est de mon émission, je pense que j'avais envie de... Étant donné que sur le site web, j'ai une petite présentation en quelques lignes, mais je pense que en cours de route, ça s'est précisé peut-être davantage. Au fond, pourquoi est-ce que je me suis lancé dans cette galère? Je pense que par blague, par ironie, ou peut-être par auto-dévaluation et fausse modestie, je pense que j'ai souvent dit aux gens qui me l'ont demandé que mon émission était... qu'au fond, le concept était un peu comme ça parce que j'avais pas vraiment le temps d'en faire davantage. Ce qui est faux, au fond, c'est commode de répondre ça, mais je pense que c'est, pour dire vrai, il y a vraiment un concept derrière. Hein? Par exemple, ne serait-ce que l'idée de penser l'actualité, pour moi, c'est majeur. C'est-à-dire que un des problèmes, en tout cas selon mon regard actuellement, c'est le fait qu'on laisse les choses sans interprétation. Il faut pas tout interpréter, mais quand même, il faut une certaine médiation. C'est aussi le rôle de ce pouvoir fantôme de traduire ce qui se passe, de lui donner une nouvelle dimension, de le relier à un sens, à un héritage aussi. Et je vois un peu mon émission comme si on se passait à tour de rôle la machine à interpréter, qu'on est un peu aussi des veilleurs, c'est-à-dire qu'à chaque mois, on change la garde. Et il y a quelqu'un qui est de garde, qui veille un peu sur le dehors et qui est là, qui l'accompagne, qui l'interprète. Et il me semble que une des choses qui caractérise notre époque, c'est justement peut-être le fossé un peu trop grand qui s'est creusé entre l'immédiat et peut-être l'héritage, le legs symbolique. C'est-à-dire que d'une part, on sort en effet peut-être d'une époque où le legs était trop présent, c'est-à-dire étouffait toute l'interprétation de ce qui se passe, du présent. Mais je crois que nous sommes dans l'inverse, trop loin de tout ce qui peut nous permettre d'interpréter, de donner une autre dimension, et que tout l'héritage symbolique peut quand même donner aussi un sens à ce qui se passe. Et donc, mon émission, c'était un peu pour réduire ce fossé-là, sans non plus retomber, je pense, dans l'autre travers dont on est sorti, c'est-à-dire que je voulais surtout pas que les gens qui viennent à mon émission se gargarisent de citations et de choses et de concepts, disons, hermétiques pour initier seulement et fassent seulement leur travail d'intellectuel. Je pense que ça, c'est certain que... Et je suis très content parce que c'est pas du tout ça qui s'est passé. Je crois que dans tous les cas, il y a à la fois moyen d'y accéder sans être un spécialiste de quoi que ce soit, et à la fois, il y a aussi une exigence, c'est-à-dire une interprétation réelle de... Il faut pas non plus jouer au populaire, c'est-à-dire que à Spirale, et on a beaucoup réfléchi, je pense dernièrement, et on continue de le faire, à toute cette catégorie de l'élite et du populaire, si on veut, de la culture supposément d'élite et la culture de masse. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est-à-dire qu'on veut pas en rester avec cette dichotomie, il faut pas agrandir ce fossé, il faut pas non plus, et je pense qu'on s'est rendu compte de ça, il faut pas non plus nier qu'il y a une différence. Il y a peut-être pas une opposition, il y a pas une hiérarchie, mais il y a quand même une différence, et je pense qu'il faut pas le... Et le nier, c'est un peu... je pense qu'il y a là une naïveté et presque une sorte de masochisme, comme si on n'avait pas le droit d'exister dans cette différence et dans cette marge. Et je pense que on doit changer de catégorie. Je pense que c'est pas la meilleure façon de voir les choses, le mass-média par rapport, par exemple, à quelque chose de plus marginal et intellectuel. Je pense que il y a d'autres catégories qui font que, par exemple, dans le populaire, il y a des choses très, très intéressantes, et dans le, on pourrait dire, dans la marge artistique, intellectuelle, il y a des choses qui sont très, très ennuyantes aussi. Et donc, ça prend d'autres catégories, je pense, pour penser tout ça. Par exemple, dans mon émission, je pense que le concept vient aussi de mon rapport à l'institution. Je pense que le but, c'était aussi de créer des rapports hors institution. On est rendu dans un temps où les institutions ont été des réponses, je pense par exemple dans les années 60, à plusieurs problèmes, et sont devenues, ces réponses sont devenues elles-mêmes problématiques. C'est-à-dire qu'on voit qu'un peu partout dans la société québécoise, disons, les institutions sont devenues un réel problème, une sorte d'étouffement. C'est évidemment que les mettre à la poubelle, comme propose Super Mario, n'est pas une solution non plus. Mais il faut reconnaître, et c'est peut-être là le déni de la gauche souvent, qu'il y a quand même un problème. Et je pense que il faut créer des rapports qui contournent ces blocages institutionnels, cette lourdeur, pour retrouver un peu de vie, un peu d'air frais, et on verra ce que ça donne. Ça va nécessairement transformer les institutions elles-mêmes. Et donc, pour transcender, si on veut, même si j'aime pas beaucoup le mot transcender, les catégories de l'élitiste et du populaire, il faut peut-être avoir un autre rapport au rôle, parce que l'institution, évidemment, détermine un rôle auquel on répond. On doit répondre, et évidemment, ça cause un certain problème, parce que... Je dirais le désintérêt généralisé envers beaucoup de choses dans l'univers culturel vient, je pense, de là. C'est-à-dire que trop souvent, ce sont des rôles qu'on joue et on a l'impression d'être dans une sorte de pièce de théâtre trop organisée. Et ça manque un peu de, je dirais, de vie, tout simplement. Et on sent, je crois qu'on est rendu très allergique à toute cette histoire de soumission à un rôle. Évidemment, le traumatisme par excellence de la culture occidentale, c'est évidemment le nazisme, où je pense qu'on s'est demandé comment les gens pouvaient répondre à ce point à un rôle, à ce qui leur était demandé, sans critique, dans une soumission violemment aveugle. Et je pense que depuis ce temps-là, on est tous, sans exception, très sensibles à quand quelqu'un veut trop plaire à un regard extérieur, quand quelqu'un veut trop se soumettre. Et je pense que il y a là quelque chose de particulier à notre époque qui mérite d'être entendu, souligné et surtout compris. C'est-à-dire que c'est peut-être pas pour rien si on est toujours en train de sortir les gens de leur rôle. Ça m'étonnerait pas que, je sais pas si vraiment il y avait des intellectuels qui passaient un jour à la télévision, et pas seulement des intellectuels français, des intellectuels qui pourraient aussi venir d'ici, mais on sait bien que c'est très menaçant. Il y aurait des bonnes chances qu'on leur demande leur recette de sauce à spaghetti ou qu'on veuille voir au fond qu'est-ce qu'il y a derrière la façade, le rôle, l'universitaire, l'intellectuel de profession. Et je pense qu'il faut pas seulement s'en scandaliser, il faut aussi comprendre pourquoi on joue toujours à faire sortir les gens de leur rôle. C'est pas seulement parce qu'on est des imbéciles, c'est aussi parce que je pense que on veut savoir si quelqu'un est seulement là par fonction. Et ça me semble une question très très importante à laquelle il faut répondre si on veut sortir de seulement d'un cynisme par rapport à ça. On peut pas seulement être contre les rôles et on peut pas seulement non plus répondre à des rôles. Il va falloir trouver une troisième réponse qui est comment répondre à un rôle tout en restant vivant, singulier, imprévisible. Ça me semble une question très très actuelle. Et je pensais et je pense toujours que mon émission proposait cela, c'est-à-dire d'une part, venez faire votre rôle de fantôme interprétatif ou d'écrivain ou d'artiste, mais pas trop non plus, c'est-à-dire essayer d'y résister. Ça me fait beaucoup penser à une de mes phrases préférées là, de Pontalis qui dit que qui supplie les psychanalystes de ne pas être psychanalyste, hein, d'une certaine façon. Et je dirais la même chose, on pourrait dire la même chose dans toutes les professions. Je pense qu'il faut que les écrivains soient pas trop écrivains, trop écrivains, que les intellectuels soient pas vraiment intellectuels non plus. Et donc, il faut toujours être dans son rôle et en dehors de son rôle. Et je le sens beaucoup, moi, comme père, par exemple, qu'il faut que je joue mon rôle de père. Il faut pas non plus que je le refuse. J'ai peut-être tendance à trop jouer avec, à aller jusqu'aux limites de ça. Mais en même temps, je pense qu'il faut aussi en sortir. Et je crois qu'être un bon père, entre guillemets, c'est aussi ne pas en être un. C'est-à-dire ne pas trop jouer au père. Et c'est sûr que sinon, à l'adolescence, on est cuit. Je pense que la crise des ados, souvent, c'est de démasquer ceux qui sont trop dans leur rôle. Et les enseignants, en général, le savent bien. C'est-à-dire que s'ils jouent trop leur rôle de prof, eh ben, ils sont cuits. Je pense que ils ouvrent à ce moment-là la porte à être démasqué en tant qu'être à demi. Je dirais à demi vivant, à demi, je dirais emmuré dans les paramètres d'un rôle qui est défini par une autorité quelconque. Cette émission-là est née dans le contexte je dirais assez sombre, assez négatif d'un discours de la plainte, je dirais, chez les intellectuels, entre autres, une sorte de plainte où finalement on sent en sourdine, et pas seulement en sourdine, là, des fois très officiellement, ben, comme quoi finalement, après moi le déluge, comme quoi les périodes glorieuses sont derrière nous, qu'on est devant une société uniquement, je dirais, en décadence. Et à la suite d'une sorte de baby boom de natalité, je dirais même au niveau de la culture, il y a eu aussi beaucoup de fertilité dans les années 60, 70, entre autres. Et on sent qu'on est tombé dans une sorte de stérilité. Est-elle réelle? Est-elle fantasmée? Ça, c'est une autre question. Je pense qu'il se crée beaucoup plus de choses qu'on le dit et de choses intéressantes. Mais on a quand même l'impression, et c'est peut-être juste une impression, que plus rien de nouveau apparaît. C'est comme s'il n'y avait pas de nouveaux courants de pensée, pas de nouvelles grandes œuvres, etc. Et donc, juste l'envie de faire naître quelque chose était pour moi un acte intellectuel ou interprétatif ou peut-être même thérapeutique, je dirais. C'est pour ça que Radio Spirale, au début, même si tout allait contre l'idée de faire ce projet-là, je pense que la seule idée de faire naître quelque chose dans le paysage culturel québécois était en soi une œuvre. Je pense que de dire non, il y a quelque chose qui naît. Et donc ça, c'était, selon moi, important. Et mon émission, c'était aussi basé sur cette idée que non, il y a une sorte de refus de stérilité, c'est-à-dire que peu importe le contexte, il importe de faire pousser des choses. Est-ce qu'on les fait bien pousser? Est-ce que ça manque d'eau, de vitamines et de subventions? Bien sûr. Mais ça pousse quand même. Et je pense que ça demeure important de pousser même dans les milieux inhospitaliers, malgré les conditions difficiles. Donc, il y avait cette idée-là. Il y avait aussi une envie de sortir de la plainte, hein, de la dépression, je dirais, généralisée, mais aussi d'une sorte de victimisation très commode, très, très catholique aussi, de l'intellectuel martyr qui se plaint de sa position. Évidemment, il a raison de se plaindre, mais je pense que d'en rester là, c'est certainement, je pense, un peu prétentieux au fond, parce que il n'y a jamais eu de période historique où les intellectuels, par exemple, et les artistes étaient vraiment libres et vraiment valorisés. Je pense que c'est une mauvaise lecture de l'histoire de penser cela. Ils ont déjà été utilisés politiquement et religieusement, mais de là à croire qu'ils étaient vraiment libres, je pense pas. Je pense pas qu'on ait déjà connu un tel âge d'or, alors c'est difficile d'en être nostalgique à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'en essayant de concevoir cette émission-là, je me disais, oui, il faut se plaindre, mais en même temps, il faut se battre, c'est certain, mais on peut aussi exister, c'est-à-dire que se créer aussi un cadre qui nous ressemble plus. Et ma question, c'était, on se plaint qu'on n'est pas dans les médias, etc., mais si on se donnait un cadre qui avait un peu plus d'allure, qu'est-ce qu'on dirait? Si on était libre, est-ce qu'on aurait quelque chose à dire? Est-ce qu'on serait intéressant? Est-ce qu'on serait pertinent? Et ça me semble une question plus importante, parce qu'on a beau se plaindre de ne pas être entendu, il faut quand même avoir quelque chose à dire pour ça, pour avoir l'impression qu'il faudrait être entendu. Et je pense que c'est plus important ça dans notre époque, c'est-à-dire de renouveler le discours, de retrouver des choses à dire, que de se battre contre les murs, qui reste un combat essentiel, mais c'est plus facile de se battre quand on a du contenu, quand on a quelque chose à proposer. En général, ça fait son chemin. Et c'est pour ça que j'avais aussi en tête, quand j'ai conçu cette émission-là, que c'est pas suffisant aujourd'hui, je pense, de faire des recensions de ce qui est publié, des recensions de ce qui est joué, interprété un peu partout. Il faut aussi, je pense, amener du neuf, tout simplement. Il faut revenir à une sorte de brainstorm, comme on dit dans les entreprises, parce que on est à une période où les gens ont aussi raison de pas faire confiance aux intellectuels. C'est-à-dire que les intellectuels sont aussi au carrefour de plusieurs chemins. Et je pense que il va falloir aussi rebâtir ce lien de confiance, au fond, en proposant des choses qui sont réellement, je dirais, plus... qui ont plus d'impact. Il y a une sorte d'essoufflement de la pensée et de la création aussi, et c'est très réel, et je pense qu'il ne faut pas le nier. Et il faut avoir, je crois, encore une fois, l'humilité de voir que si on se sent rejeté, c'est peut-être aussi parce qu'il y a là quelque chose de vrai. Il faut peut-être aussi le prendre et se dire que, peut-être qu'il faut, en effet, changer certaines choses, aller un peu plus en profondeur et interpréter cette époque au lieu de seulement la juger et de la dénigrer. Comprendre peut-être un peu plus ce qui se passe. Et pour ça, ben, pour se renouveler, pour renaître, ça prend un certain cadre. Et je suis pas sûr que les médias de masse et, disons, traditionnels peuvent permettre cela. Un peu, mais pas assez. Je pense que pour continuer d'inventer et d'innover, il faut se mettre un peu à l'ombre. Et ça prend un certain cadre, ça prend trop du temps, évidemment. Ça prend évidemment une sorte de liberté, une page blanche, une carte blanche, ce que je proposais dans mon émission et ce que je propose, je dirais, en général et à d'autres de faire. C'est-à-dire qu'on, entre autres, en contournant le corset de l'entrevue à deux, ou même à 3-4, les tables rondes, même si ça reste quelque chose d'indépassable, on va toujours devoir passer par là. J'avais envie de contourner ça parce que souvent les entrevues mènent aussi à ce que chacun garde son rôle. Et c'est très facile pour chacun de se déresponsabiliser. Celui qui fait l'entrevue peut se déresponsabiliser en se disant que ses questions étaient bonnes, mais que les réponses étaient pas fameuses. Et de l'autre côté, faire porter le poids de la responsabilité en disant que les questions étaient un peu connes, alors voilà pourquoi les réponses sont à moitié satisfaisantes, et on se renvoie la balle du fardeau de la faute comme ça assez facilement dans notre tête, je pense, et il y a une sorte de désinvestissement où chacun joue son rôle et fait son travail, et souvent ça, il y a des grandes entrevues évidemment qui sont très intéressantes, mais souvent il y a une certaine limite qui est lié, je pense, à des aspects plus émotifs, au fond. Et évidemment, moi, comme travail, étant donné que je suis psychologue et que je fais des entrevues à longueur de semaine, j'avais peut-être aussi envie de faire d'autres choses là, en dehors de mon travail. Il y a évidemment ça que je dois dire en toute franchise. Mais mon travail est aussi de faire déraper les entrevues, c'est-à-dire que c'est pas des entrevues traditionnelles, évidemment, comme psychologue, c'est pas nécessairement une entrevue d'ailleurs, mais on est deux en tout cas, et il y a une torsion qui est faite à la parole, qui est déplacée, qui est envoyée ailleurs en tout cas, qui est une sorte de voie de contournement. Il se passe quelque chose avec la parole qui se passe pas normalement dans une entrevue. C'est pour ça que les gens viennent consulter, sinon ils feraient seulement parler avec les gens de leur entourage ou ils feraient des entrevues, mais il y a quelque chose d'autre qui se passe. Et évidemment, je suis sensible à ça. Et le fait de forcer les gens à parler tout seuls, je dis bien forcer parce que la plupart des gens y ont résisté, étaient pas très contents, je pense, à la base de voir qu'il y avait à faire une sorte de monologue tout seul avec le micro. Je pense que ça, on le sent dans la voix des gens dans l'émission qui ont parlé, que ça a un impact, que ça a un effet, qu'on ne parle pas de la même façon quand on parle tout seul. Ça me fascine énormément et je suis très content de ça. Et il me semble que ça se rapproche beaucoup plus de l'écriture, de la peinture, de la danse. Il faut voir que l'intellectuel ou l'artiste ou l'écrivain a un certain rapport avec l'intériorité qui n'est pas toujours évident de faire advenir dans une entrevue à deux, très plus classique. Et je trouve que le cadre d'une sorte de monologue au micro amène la possibilité de cette intériorité. Hein? On parle pas de la même façon quand on parle en voiture, parce qu'on est deux, mais on regarde la route. On parle pas de la même façon quand on est assis autour d'un feu, parce qu'on regarde le feu. Et donc, il y a un rapport au regard. Évidemment, la psychanalyse a compris ça avec le divan, que ça change nécessairement la parole. Bon, évidemment, on n'est pas obligé d'être sur le divan pour qu'il y ait une torsion à la parole. Il y a plein d'autres contextes qui font ça, même dans les entrevues, par exemple, en face-à-face, évidemment. Mais je pense qu'il y a... c'est une, en tout cas, des façons de la faire déraper, si je peux parler comme ça, puis de lui donner une autre dimension. Et on le sent dans le grain de la voix des invités de l'émission qu'il y a quelque chose de plus intime. C'est une voix beaucoup plus chaleureuse et on sent justement qu'on n'est pas dans une institution, qu'il y a quelque chose de nécessairement engagé. C'est pour ça que moi, l'engagement, je le vois pas nécessairement comme défendre des causes ou défoncer des portes déjà ouvertes, parce que souvent, c'est aussi répéter son rôle d'activiste. Et finalement, on est peut-être tout aussi soumis à l'autorité que ce qu'on critique à ce moment-là. Il y a un engagement qui est d'abord une sorte d'engager son être dans sa parole, qu'on sente qu'il y a tout, que dans le grain de la voix, il n'y a pas de mur, il n'y a pas de béton, il y a une sorte d'accès à l'intimité et à l'intériorité, et une sorte de fragilité aussi que j'aime bien sentir. Pour moi, c'est beaucoup plus rassurant de sentir une fragilité dans la voix que de sentir une sorte de confiance institutionnelle qui est plutôt souvent, je trouve, effrayante. Donc, il y a des conditions nécessaires à l'expérience de la pensée. On ne peut pas penser partout. Je pense que c'est naïf de croire qu'on peut œuvrer n'importe où. Hein? C'est un peu comme au théâtre. Il faut une scène, il faut des éclairages, il faut des costumes, il faut une salle, il faut un contexte. Bon, puis évidemment, on pourrait dire que d'une façon plus contemporaine, il y a du théâtre de rue, etc. Mais bien sûr, mais il y a toujours quand même un contexte. La scène peut être, par exemple, peut être délimitée de façon fictive, là, même si c'est sur le trottoir. Il y a quand même quelque chose de l'ordre d'une scène. Et quelle scène pour l'intervention, par exemple, intellectuelle dans la cité. Il en faut une. Je ne suis pas sûr qu'on peut intervenir dans n'importe quelle émission, par exemple à la télé. On peut essayer, mais je pense qu'il ne faut pas nier le fait qu'il faut un certain cadre. De la même façon que moi, comme psychologue, je ne peux pas commencer à... Quand dans ma vie privée, les gens me demandent des conseils ou des choses comme ça, je peux rien faire. Il y a pas vraiment de cadre où je peux être effectif. Il faut un certain contexte pour que ce travail-là, par exemple, ait un sens, ait de l'allure, ait un effet, ait un impact. Et donc, ça prend certains paramètres pour qu'il y ait un jeu. Pour qu'il y ait un jeu, ça prend des limites, ça prend des règles du jeu, ça prend un certain équipement. Et je pense qu'il ne faut pas se gêner de ça. Et les intellectuels ont besoin de leur terrain de jeu. Et je le vois un peu comme ça. Bon, cette émission-là, c'est une sorte de terrain de jeu pour intellectuels, pour écrivains, pour artistes, pour des gens qui manquent de terrain de jeu ailleurs, tout simplement. Et donc, il faut leur en donner. Et je pense qu'il faut... Ça, c'est un terrain de jeu qui est souvent nécessairement de laisser beaucoup de liberté et de favoriser une sorte d'introspection. Il y a même quelqu'un qui a participé à l'émission qui m'a dit que après avoir fait son monologue du mois, m'avait dit que c'était une sorte de thérapie pour intellectuels. J'avais trouvé ça intéressant parce que c'est vrai qu'il y a un côté, au fond, un peu thérapeutique là-dedans, dans le sens où je laisse les gens trouver leur style, trouver leurs propos sans trop les diriger. Et je pense que ça a une sorte d'effet thérapeutique. Ça en a eu un sur moi, en tout cas. Et je pense que ça en a eu un aussi sur la plupart des gens qui sont venus, sinon pas tous. Et c'est l'idée que quand on prend la responsabilité de sa parole, il y a quelque chose qui se passe. On est comme obligé de se trouver un style et de l'adopter. On peut pas seulement mettre ça sur la faute de l'institution ou sur la faute de l'autre. Il y a comme quelque chose qu'on doit porter. Et ça a un effet sur la parole. Et au fond, je pense aussi que cette émission-là est née de ma propre recherche de style, c'est-à-dire que moi-même, j'étais un peu perdu et je le suis encore par rapport à quel style adopter au niveau du discours. Et ça m'intéresse plus, je crois, à la limite que le contenu du discours lui-même. C'est-à-dire, comment se rattacher à... au legs, à l'héritage, aux auteurs qu'on a lus, tout en parlant d'une voix singulière. Ça me semble tout un défi. C'est pour ça que, et par exemple, particulièrement dans l'essai, quel, quel style pour l'essai? Est-ce que c'est plus une critique ou un témoignage? Et je pense qu'à Spirale, on est tout à fait dans ces considérations-là, c'est-à-dire on cherche une sorte de style qui est peut-être un rapport au rôle, c'est-à-dire qu'il faut que l'essayiste ou le critique ou l'écrivain joue son rôle et en même temps qu'il en sorte, qu'il soit un pied dedans et un pied dehors peut-être. Et puis bon, c'est pas pour rien que j'aime des auteurs comme Nietzsche ou en psychanalyse Pontalis ou je serais plus récemment dans la littérature. Je pense que j'ai vu chez VLB aussi une sorte de rapport à l'essai qui est très intéressant, qui mélange les styles, mais qui est aussi cette espèce de jonction entre l'héritage symbolique et la singularité. Qui me semble très difficile à faire et en même temps très important à faire. Évidemment, il ne faut pas que tout le monde fasse ça, mais c'est une des choses que moi, en tout cas personnellement, je cherche. C'est pas simple, mais c'est possible. Je pense que le cadre de cette émission-là peut avoir l'air de n'importe quoi, mais ce n'est pas n'importe quoi. C'est plutôt une recherche de ce style-là, qui est un style hybride, qui est un style qui cherche à décrocher de ces rôles-là sans en décrocher. Par exemple, moi, je suis plus capable de seulement écrire avec comme on fait une thèse, par exemple, ou comme on fait en faisant ses devoirs, si on veut, avec des citations toujours parfaites et appropriées, en départageant toujours très bien qu'est-ce qui vient des auteurs et qu'est-ce qui vient de soi. Moi, j'y crois plus beaucoup à ça, pour moi, en tout cas, parce que souvent, c'est une sorte de comédie institutionnelle où il y a toute une stratégie politique de savoir quand citer, quand ne pas citer, à quel endroit on sent qu'on a besoin de l'appui d'une autorité extérieure à nous. Il y a tout un jeu de pouvoir, de soumission et qui me semble, à moi en tout cas, un peu problématique parce que quand on parle au « je » ou au fameux « nous » neutre avec lequel j'ai beaucoup de difficultés, on est toujours de toute façon en train d'hériter d'auteurs. Il n'y a pas de je pur, il n'y a pas de nous pur, de toute façon. Donc il y a quand même une comédie là-dedans. Quand est-ce qu'on le prend sous notre identité, puis quand est-ce qu'on décide de plutôt le laisser sous le signe de l'autre, il y a là des décisions qui me semblent, je dirais en tout cas au niveau psychanalytique, il y a quelque chose de douteux là-dedans. Et il me semble qu'on peut jouer avec ça. C'est-à-dire que cette frontière-là n'est pas claire, ne sera jamais claire, et qu'on peut en jouer. C'est-à-dire qu'on peut penser aujourd'hui qu'un livre écrit ou une parole dite seulement au jeu est peut-être d'autant plus héritière de tous ces auteurs, de tout l'héritage, ou en tout cas autant qu'une parole qui est toujours en train de faire référence à une autorité externe, à des auteurs fétiches, etc. Et donc, je pense que là-dessus, il faut y réfléchir. Bien sûr, il y a par exemple, chez Derrida, c'est très fort, cet aspect-là. Il y a tout un jeu sur à la fois l'héritage et en même temps, on sent toujours Derrida dans l'écriture. Donc c'est sûr et en même temps, c'est quelqu'un qui a commenté énormément. C'est un grand lecteur. Et en même temps, c'est quelqu'un qui a aussi une grande empreinte sur ce qu'il faisait. On pouvait pas se tromper sur le fait que c'était un texte de Derrida ou non. Donc, il y avait aussi, chez Derrida, cette double exigence d'être à la fois jamais seul et d'être toujours aussi seul. Je pense qu'il y a ça. Ça, c'est un des auteurs, je pense, qui a cherché un style. On peut aimer, on peut ne pas aimer. Ça, c'est, je dirais que c'est secondaire. L'important, c'est l'effort qu'il y avait là de faire cette jonction. Qui m'apparaît en tout cas un sentier à défricher encore plus à ce niveau-là. Et je pense que c'est un sentier qui est difficile à défricher dans les institutions, entre autres, par exemple, à l'université, où nécessairement, ça vient jouer un peu dans les rôles. C'est-à-dire qu'on ne permet pas vraiment aux étudiants en général d'avoir un jeu, ni même aux professeurs. Donc, y a là quelque chose. C'est comme si pour avoir une légitimité et une crédibilité, il fallait nécessairement faire une sorte de référence officielle d'être appuyé parce que semble-t-il que le jeu est toujours louche et donc toujours susceptible d'être considéré comme étant pas sérieux ou même je pense qu'on voit ça comme une sorte de paresse, hein, comme quelqu'un qui fait pas ses devoirs. Mais c'est pas vrai. Moi, ça me semble une forme supérieure d'écriture ou de parole que d'être capable d'avoir intégré la matière, comme on dit. Je reviens toujours à cette expression. On nous dit toute notre vie qu'il faut intégrer la matière, mais on nous dit aussi toute notre vie qu'il faut surtout pas le faire et commencer à penser qu'on peut vraiment avoir intégré ça dans notre personnalité, dans notre parole, dans notre écriture. Qui au fond, on souhaite, on dit aux gens qu'il faut qu'ils soient libres et qu'ils prennent l'héritage pour se libérer. Mais au fond, on sent que le second message, c'est « mais libérez-vous pas trop, hein, il faut quand même rester soumis aux grands auteurs, aux classiques, etc. Et aux auteurs à la mode. Il faut pas se prendre trop au sérieux et trop au singulier non plus. » Donc voilà pour le style de l'émission. Il y aurait tellement de choses à dire. Je vais juste seulement rajouter en rafale d'autres thèmes. Évidemment, je vois bien que je ne viendrai pas à bout de tout ce que ça m'inspire, cette émission. Je dois dire que ce qui me surprend le plus, même si ça devrait pas me surprendre, c'est la générosité incroyable de tous les gens qui ont participé à l'émission. C'est-à-dire qu'on sent que quand on met un cadre qui a de l'allure... peut-être le cadre est lui-même généreux. Puis on dirait que ça donne envie aux gens de se donner. Et j'ai été très, très... Pas que je pensais pas que les êtres humains étaient généreux, mais ça m'a peut-être touché, au fond, plus que surpris que les gens s'investissent autant dans quelque chose d'aussi gratuit. Parce que les gens n'étaient pas payés, personne ne gagnait rien à faire ça. Et c'est peut-être dans ces moments-là qu'on est le plus... qu'on s'abandonne le plus facilement. Et donc, il y a ça qui était très beau et qui est toujours très beau. Et ça m'a aussi donné une sorte de rapport à la communauté. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de... Même si on est à la fois tout le monde seul dans notre création, dans notre pensée, il y a aussi la nécessité, je pense, de se toucher mutuellement, d'avoir une sorte de communauté qui donne un appui. Et je pense qu'il ne faut jamais oublier cela, qu'on a aussi besoin de sentir une sorte d'appui ou de qu'on n'est pas seul finalement. C'est très banal, mais en même temps, je pense que c'est tout à fait vrai. On ne peut pas dépasser ça. Évidemment, ce qui m'a aussi fait beaucoup rire dans tout ça, c'est que même si ça se veut officiellement un rapport à l'actualité, si on veut cette émission-là, que chacun puisse commenter l'actualité, à peu près tout le monde a eu un rapport à l'actualité qui était de deuxième niveau et sinon pas de troisième niveau, c'est-à-dire qu'un rapport à l'événement. Et c'est tout à fait fascinant de voir que ce qui fait événement, c'est certainement pas ce qu'on nous bombarde 24 heures sur 24. Ce qu'on appelle des informations, des événements, ne sont pas nécessairement ce qui marque les gens au niveau intérieur. Et ça me semble important, que ce qui fait événement au niveau de l'intériorité n'est pas nécessairement ce qu'on dit ou ce qu'on nous suggère qui fasse événement dans le monde extérieur. Et il y en a qui ont réfléchi, par exemple, à l'ordinaire face à l'extraordinaire, en mêlant aussi les époques, les temps, le rapport à l'histoire, à la répétition, les anniversaires de mort de gens. Il y a eu des réflexions sur le sacré, sur le religieux, sur la guerre, sur la pauvreté, et tout ça d'une façon très... à la fois très ancré dans notre époque et à la fois totalement dissocié du discours des nouvelles, par exemple. Et ça me semblait tout à fait intéressant, c'est le rapport au temps. Je pense que l'aspect nietzschéen de l'intempestif est très très présent dans l'émission, c'est-à-dire qu'on on jurerait qu'on est aujourd'hui et pas du tout aujourd'hui. Et ça me semble, ça me semble beau, ça me semble bien, puis ça me semble une voie à poursuivre. Évidemment, je pourrais continuer. Je mentionnerai peut-être avant de terminer certaines choses qui m'ont marqué, à quel point aussi, quand on laisse les gens libres, il y a une sorte de rapport à la nature qui est très présent dans la plupart des contributions. Une sorte de poésie dans le rapport au monde qui. Une sorte de lyrisme, peut-être. Il faudrait lire Mathieu Arsenault là-dessus, qui a d'ailleurs publié pendant le mois de décembre aux Nouveaux Essais Spirales quelque chose de très prometteur, je pense, à lire en tout cas. Et j'ai remarqué que, je sais pas, il y a beaucoup de gens qui ont parlé de la neige, tout ça, des orages, de la pluie, des arbres, des loups. Il y a quelque chose là de. Je sais pas, c'est surprenant dans le monde actuel que quand on laisse les gens libres, que c'est ça qui sorte. Comme si il y avait là un refuge qui sera peut-être toujours là, hein, une sorte de rapport entre soi et le monde. On en parle plus beaucoup. Comme si nous étions devenus froids et technologiques et tout ça, mais on voit bien que c'est pas vrai. Un rapport à l'esthétique, un rapport presque animiste au monde, qui demeure une sorte de refuge qui fait beaucoup de bien. Et au fond, on a tous besoin de poésie. Je pense que ça demeure peut-être la vérité, la dernière vérité, qu'il y a une soif de poésie. On a autant besoin de poésie que de nourriture, et ça restera toujours. Évidemment, quelle poésie, ça demeure une autre question, mais j'ai pas envie de la compliquer justement, cette question. Poésie au sens peut-être fondamental de transformation. Qu'on a besoin, l'être humain est un éternel transformateur, a besoin de tout transformer, n'accepte rien dans son état actuel, doit tout faire cuire et dans sa tête, dans ses mains, etc. Et donc on a besoin de ça. Je faisais des farces avec. Ça me fait penser à Ron Fournier, justement. J'ai commencé avec lui, je vais finir avec lui. C'est peut-être de parler au micro qui me fait penser à ça. Et c'est peut-être aussi pour faire exprès de mêler l'élitiste et le populaire. Mais je pense que quand j'écoutais Les Lignes ouvertes l'autre soir dans mon auto, je pense que. Il faut aussi comprendre que tout le monde a justement besoin de poésie et malgré ce qu'on peut penser, il y a ça dans certaines lignes ouvertes, en tout cas dans celle de Ron Fournier, des fois, il y a une sorte de dérapage poétique qui est indéniable, évidemment, c'est sûr que c'est trop, quand je disais qu'il y a trop une scission entre l'immédiat et le legs culturel, Ron Fournier, c'est un bon exemple. C'est un poète sans héritage, on pourrait dire. C'est un poète sans mémoire et qui est trop collé, au fond, à ce qui se passe. Ça lui enlève peut-être la possibilité d'avoir une dimension, ce qui est dommage, une autre dimension. Mais ça reste poétique quand même. Je pense que, par exemple, tous ceux qui ont déjà entendu des délires du genre, moi, j'avais entendu Ron Fournier. Faire des délires sur le chiffre 110% pendant à peu près 15 minutes, 110, 115, 104, 102, 108, 103, puis ça continue comme ça pendant 10 minutes. C'est pas pour rien que les gens écoutent ça. Ou quand il est revenu d'Asie, justement, puis qu'il disait Mihao au micro comme ça, il y avait des dérapages constants. Et c'est une sorte de transformation de quelque chose, bon, d'assez banal comme le hockey à la base, mais qui en fait une sorte de poésie. Évidemment qu'on peut pas comparer au grand poète, mais il y a une transformation là qui je crois fait du bien à entendre, qui nous amène ailleurs, et je pense qu'il faut voir que c'est là qu'on peut transcender justement l'élitiste et le populaire, c'est-à-dire que on a besoin de cette transformation-là. Peu importe où on la trouve, est-elle plus ou moins ancrée dans l'héritage culturel ou non, On a besoin de cette transformation-là, on a besoin d'en faire autre chose. Et puis, bon, par exemple, pas plus tard qu'hier soir, j'entendais Ron Fournier faire une sorte de... Pendant que quelqu'un appelait puis qu'il parlait banalement du Canadien, on sentait que Ron Fournier commençait à s'ennuyer pas mal. Et il commence à chanter une sorte de chant arabe, là, puis il chantait ça dans le micro pendant que l'autre parlait, puis parce que, bon, je pense qu'il est allé aussi en Tunisie. Dans son espèce de voyage. Et il y avait un dérapage total. Et ça fait du bien. Je sais pas comment le dire autrement que j'ai compris en écoutant cette ligne ouverte-là qu'il y avait là quelque chose de fondamental, bien sûr, c'est certainement pas seulement Ron Fournier qui doit nous guider là-dessus, mais il y a quelque chose là qui est dans cette exigence de transformation, qui a quelque chose dans l'humanité profonde là-dedans. C'est ce qui m'effraie beaucoup, par exemple, de tous les réseaux d'information qui nous disent qu'ils ne transforment rien. Ça m'effraie beaucoup. La science m'effraie beaucoup d'ailleurs là-dessus. Hein. J'aime mieux quand elle fait des potages chimiques, là, puis des nouveaux détergents écologiques ou des choses comme ça, mais plus ça que quand on nous prétend la neutralité, le reflet, l'information, les données sans aucune transformation, quand on essaie de contrôler les variables, quand on essaie d'épurer, quand on essaie de limiter les transformations le plus possible, ce qui est la prétention des journalistes en général, ça me tue. Je préfère Ron Fournier à un journaliste trop sérieux. Et il y a ça à notre époque. Je pense que je suis vraiment pas tout seul à penser ça, ou en tout cas à le sentir. Ben voilà, je m'arrêterai peut-être en soulignant, en parlant de voyage, qu'une autre constatation autour de mon émission, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont parlé de leur voyage. Et il y a une sorte de lien profond entre le récit et l'éloignement, entre l'écriture et la distance, entre l'envie de raconter. Très simple, il y a là, peut-être qu'on complique trop les choses des fois, puis qu'au fond, c'est aussi ça, la culture, c'est une sorte de transmission, de raconter ce qu'on a vu, alors que les autres n'étaient pas là. Et ça peut être un voyage intérieur, ça peut être un voyage dans des livres, dans des expositions, ça peut être un voyage réel dans un autre pays. Mais il faut peut-être retrouver ça. Hein, on restera toujours des explorateurs qui ont envie de raconter des histoires de pêche et d'en mettre un peu. Et c'est dans cette exagération un peu hystérique que se trouve peut-être le bonheur de l'échange entre les êtres humains. Je crois qu'il faut pas perdre ça, et je crois pas qu'on va le perdre. Je crois que ça continue sous d'autres formes et qu'il faut poursuivre, au fond, cette exagération, ces histoires de pêche, et de retrouver peut-être tout simplement le bonheur de se parler, de raconter. Alors voilà, je me suis raconté bien amplement et bien suffisamment, et je vous souhaite une bonne écoute de tous les mois qui précèdent celui-ci et de ceux qui suivront.